Dans la confusion du salon, revenant de reconduire une visite ou prenant une assiette de gâteau pour les offrir à une autre, Madame Swann, en passant près de moi, me prenait une seconde à part. « Je suis spécialement chargé par Gilberte de vous inviter à déjeuner pour après-demain. Comme je n'étais pas certaine de vous voir, j'allais vous écrire si vous n'étiez pas venu. » Je continuais à résister, et cette résistance me coûtait de moins en moins, parce qu'on a beau aimer le poison qui vous fait du mal, quand on en est privé par quelque nécessité depuis déjà un certain temps, on ne peut pas ne pas attacher quelque prix au repos qu'on ne connaissait plus, à l'absence d'émotion et de souffrance. Si l'on n'est pas tout à fait sincère en se disant qu'on ne voudra jamais revoir celle qu'on aime, on ne le serait pas non plus en disant qu'on veut la revoir. Car sans doute, on ne peut supporter son absence qu'en se la promettant courte, en pensant au jour où on se retrouvera. Mais d'autre part, on sent à quel point ces rêves quotidiens d'une réunion prochaine et sans cesse ajournée sont moins douloureux que ne serait une entrevue qui pourrait être suivie de jalousie. De sorte que la nouvelle qu'on va revoir celle qu'on aime donnerait une commotion peu agréable. Ce qu'on recule maintenant de jour en jour, ce n'est plus la fin de l'intolérable anxiété causée par la séparation, c'est le recommencement redouté d'émotions sans issue. Comme à une telle entrevue, on préfère le souvenir docile qu'on complète à son gré de rêverie, ou celle qui, dans la réalité, ne vous aime pas, vous fait au contraire des déclarations, quand vous êtes tout seul. Ce souvenir qu'on peut arriver en y mêlant peu à peu beaucoup de ce qu'on désire à rendre aussi doux qu'on veut, comme on le préfère à l'entretien à journée où on aurait affaire à un être à qui on ne dicterait pas à son gré les paroles qu'on désire, mais dont on subirait les nouvelles froideurs, les violences inattendues. Nous savons tous, quand nous n'aimons plus, que l'oubli, même le souvenir vague, ne cause pas tant de souffrance que l'amour malheureux. C'est d'un tel oubli anticipé que je préférais, sans me l'avouer, la reposante douceur. D'ailleurs, ce qu'une telle cure de détachement psychique et d'isolement peut avoir de pénible, le devient de moins en moins pour une autre raison. C'est qu'elle affaiblit, en attendant de la guérir, cette idée fixe qu'est un amour. Le mien était encore assez fort pour que je tinsse à reconquérir tout mon prestige aux yeux de Gilberte, lequel, par ma séparation volontaire, devait, me semble-t-il, grandir progressivement de sorte que chacune de ces calmes et tristes journées où je ne la voyais pas, venant chacune après l'autre, sans interruption, sans prescription, quand un fâcheux ne se mêlait pas de mes affaires, était une journée, non pas perdue, mais gagnée. Inutilement gagnée peut-être, car bientôt on pourrait me déclarer guéri. La résignation, modalité de l'habitude, permet à certaines forces de s'accroître indéfiniment. Celle si infime que j'avais pour supporter mon chagrin, le premier soir de ma brouille avec Gilberte, avait été portée depuis lors à une puissance incalculable. Seulement la tendance de tout ce qui existe à se prolonger est parfois coupée de brusques impulsions auxquelles nous nous concédons avec d'autant moins de scrupules de nous laisser aller que nous savons pendant combien de jours, de mois, nous avons pu, nous pourrions encore, nous priver. Et souvent, c'est quand la bourse où l'on épargne va être pleine qu'on la vide tout d'un coup, c'est sans attendre le résultat du traitement, et quand déjà on s'est habitué à lui, qu'on le cesse. Et un jour où Madame Swann me redisait ses habituelles paroles sur le plaisir que Gilberte aurait à me voir, mettant ainsi le bonheur dont je me privais déjà depuis si longtemps comme à la portée de ma main, je fus bouleversé en comprenant qu'il était encore possible de le goûter, et j'eus peine à attendre le lendemain. Je venais de me résoudre à aller surprendre Gilberte avant son dîner. Ce qui m'aida à patienter tout l'espace d'une journée fut un projet que je fis. Du moment que tout était oublié, que j'étais réconcilié avec Gilberte, je ne voulais plus la voir qu'en amoureux, tous les jours elle recevrait de moi les plus belles fleurs qui fussent, et si Madame Swann, bien qu'elle n'eût pas le droit d'être une mère trop sévère, ne me permettait pas des envois de fleurs quotidiens, je trouverais des cadeaux plus précieux et moins fréquents. Mes parents ne me donnaient pas assez d'argent pour acheter des choses chères. Je songeais à une grande potiche de vieux chine qui me venait de ma tante Léonie, et dont maman prédisait chaque jour que Françoise allait venir en lui disant « Ah, c'est décollé !» et qu'il n'en resterait rien. Dans ces conditions, n'était-il pas plus sage de la vendre pour pouvoir faire tout le plaisir que je voudrais à Gilberte? Il me semblait que je pourrais bien en tirer 1000 francs. Je la fis envelopper, l'habitude m'avait empêché de jamais la voir. M'en séparer eut au moins un avantage qui fut de me faire faire sa connaissance. Je l'emportai avec moi avant d'aller chez les Swann, et en donnant leur adresse au cocher, je lui dis de prendre par les Champs-Élysées, au coin desquels était le magasin d'un grand marchand de chinoiserie que connaissait mon père. À ma grande surprise, il m'offrit, séance tenante, de la potiche, non pas 1000, mais 10 000 francs. Je pris ces billets avec ravissement. Pendant toute une année, je pourrais combler chaque jour Gilberte de roses et de lilas. Quand je fus remonté dans la voiture en quittant le marchand, le cocher, tout naturellement, comme les Swann demeuraient près du bois, se trouva, au lieu du chemin habituel, descendre l'avenue des Champs-Élysées. Il avait déjà dépassé le coin de la rue de Berry, quand, dans le crépuscule, je crus reconnaître, très près de la maison des Swann, mais allant dans la direction inverse et s'en éloignant, Gilberte, qui marchait lentement, quoique d'un pas délibéré, à côté d'un jeune homme avec qui elle causait, et duquel je ne pus distinguer le visage. Je me soulevai dans la voiture, voulant faire arrêter, puis j'hésitai. Les deux promeneurs étaient déjà un peu loin, et les deux lignes douces et parallèles que traçait leur lente promenade allaient s'estompant dans l'ombre élyséenne. Bientôt j'arrivai devant la maison de Gilberte. Je fus reçu par Madame Swann. « Oh, elle va être désolée, me dit-elle, je ne sais pas comment, elle n'est pas là. » Elle a eu très chaud tantôt à un cours, elle m'a dit qu'elle voulait aller prendre un peu l'air avec une de ses amies. Je crois que je l'ai aperçue, avenue des Champs-Élysées. Je ne pense pas que ce fût elle. En tout cas, ne le dites pas à son père, il n'aime pas qu'elle sorte à ces heures-là. Good evening. Je partis, dit au cocher de reprendre le même chemin, mais ne retrouvai pas les deux promeneurs. Où avaient-ils été? Que se disaient-ils dans le soir de cet air confidentiel? Je rentrai, tenant avec désespoir les 10 000 francs inespérés qui avaient dû me permettre de faire tant de petits plaisirs à cette Gilberte que maintenant j'étais décidé à ne plus revoir. Sans doute cet arrêt chez le marchand de chinoiserie m'avait réjoui, en me faisant espérer que je ne verrais plus jamais mon amie que contente de moi et reconnaissante. Mais si je n'avais pas fait cet arrêt, si la voiture n'avait pas pris par l'avenue des Champs-Élysées, je n'eusse pas rencontré Gilberte et ce jeune homme. Ainsi, un même fait porte des rameaux opposites, et le malheur qu'il engendre annule le bonheur qu'il avait causé. Il m'était arrivé le contraire de ce qui se produit si fréquemment. On désire une joie, et le moyen matériel de l'atteindre fait défaut. Il est triste, a dit la Bruyère, d'aimer sans une grande fortune. Il ne reste plus qu'à essayer d'anéantir peu à peu le désir de cette joie. Pour moi, au contraire, le moyen matériel avait été obtenu, mais au même moment, sinon par un effet logique, du moins par une conséquence fortuite de cette réussite première, la joie avait été dérobée. Il semble d'ailleurs qu'elle doive nous l'être toujours. D'ordinaire, il est vrai, pas dans la même soirée où nous avons acquis ce qui la rend possible. Le plus souvent, nous continuons de nous évertuer et d'espérer quelque temps. Mais le bonheur ne peut jamais avoir lieu. Si les circonstances arrivent à être surmontées, la nature transporte la lutte du dehors au dedans et fait peu à peu changer assez notre cœur pour qu'il désire autre chose que ce qu'il va posséder. Et si la péripétie a été si rapide que notre cœur n'a pas eu le temps de changer, la nature ne désespère pas pour cela de nous vaincre, d'une manière plus tardive, il est vrai, plus subtile, mais aussi efficace. C'est alors à la dernière seconde que la possession du bonheur nous est enlevée, ou plutôt, c'est cette possession même que, par une ruse diabolique, la nature charge de détruire le bonheur. Ayant échoué dans tout ce qui était du domaine des faits et de la vie, c'est une impossibilité dernière, l'impossibilité psychologique du bonheur que la nature crée. Le phénomène du bonheur ne se produit pas ou donne lieu aux réactions les plus amères. Je serrai les 1000 francs. Mais il ne me servait plus à rien. Je l'ai dépensé du reste encore plus vite que si j'eusse envoyé tous les jours des fleurs à Gilberte, car quand le soir venait, j'étais si malheureux que je ne pouvais rester chez moi et aller pleurer dans les bras de femmes que je n'aimais pas. Quant à chercher à faire un plaisir quelconque à Gilberte, je ne le souhaitais plus. Maintenant, retourner dans la maison de Gilberte n'eût pu que me faire souffrir. Même au revoir Gilbert, qui m'eût été si délicieux la veille, ne m'eût plus suffi, car j'aurais été inquiet tout le temps où je n'aurais pas été près d'elle. C'est ce qui fait qu'une femme, par toute nouvelle souffrance qu'elle nous inflige, souvent sans le savoir, augmente son pouvoir sur nous, mais aussi nos exigences envers elle. Par ce mal qu'elle nous a fait, la femme nous cerne de plus en plus, redouble nos chaînes, mais aussi celles dont il nous aurait jusque-là semblé suffisant de la garrotter pour que nous nous sentions tranquilles. La veille encore, si je n'avais pas cru ennuyer Gilberte, je me serais contenté de réclamer de rares entrevues, lesquelles maintenant ne m'eussent plus contenté et que j'eusse remplacé par bien d'autres conditions. Car en amour, au contraire de ce qui se passe après les combats, on les fait plus durs, on ne cesse de les aggraver, plus on est vaincu, si toutefois on est en situation de les imposer. Ce n'était pas mon cas à l'égard de Gilberte. Aussi, je préférais d'abord ne pas retourner chez sa mère. Je continuais bien à me dire que Gilberte ne m'aimait pas, que je savais depuis assez longtemps, que je pouvais la revoir si je voulais, et si je ne le voulais pas, l'oublier à la longue. Mais ces idées, comme un remède qui n'agit pas contre certaines affections, étaient sans aucune espèce de pouvoir efficace contre ces deux lignes parallèles que je revoyais de temps à autre, de Gilberte et du jeune homme s'enfonçant à petits pas dans l'avenue des Champs-Élysées. C'était un mal nouveau qui lui aussi finirait par s'user, c'était une image qui, un jour, se présenterait à mon esprit entièrement décantée de tout ce qu'elle contenait de nocif, comme ces poisons mortels qu'on manie sans danger, comme un peu de dynamite à quoi on peut allumer sa cigarette sans craindre d'explosion. En attendant, il y avait en moi une autre force qui luttait de toute sa puissance contre cette force malsaine qui me représentait sans changement la promenade de Gilberte dans le crépuscule, et qui, pour briser les assauts renouvelés de ma mémoire, travaillait utilement en sens inverse mon imagination. La première de ces deux forces, certes, continuait à me montrer ces deux promeneurs de l'avenue des Champs-Élysées et m'offrait d'autres images désagréables tirées du passé. Par exemple, Gilberte haussant les épaules quand sa mère lui demandait de rester avec moi. Mais la seconde force, travaillant sur le canevas de mes espérances, dessinait un avenir bien plus complaisamment développé que ce pauvre passé, en somme si restreint. Pour une minute où je revoyais Gilberte maussade, combien n'y en avait-il pas où je combinais une démarche qu'elle ferait faire pour notre réconciliation, pour nos fiançailles peut-être. Il est vrai que cette force que l'imagination dirigeait vers l'avenir, elle l'appuisait malgré tout dans le passé. Au fur et à mesure que s'effacerait mon ennui, que Gilberte eût haussé les épaules, diminuerait aussi le souvenir de son charme, souvenir qui me faisait souhaiter qu'elle revînt vers moi. Mais j'étais encore bien loin de cette mort du passé. J'aimais toujours celle qu'il est vrai que je croyais détester. Mais chaque fois qu'on me trouvait bien coiffé, ayant bonne mine, j'aurais voulu qu'elle fût là. J'étais irrité du désir que beaucoup de gens manifestèrent à cette époque de me recevoir et chez lesquels je refusais d'aller. Il y eut une scène à la maison parce que je n'accompagnais pas mon père à un dîner officiel où il devait y avoir les bons temps avec leur nièce Albertine, petite jeune fille presque encore enfant. Les différentes périodes de notre vie se chevauchent ainsi l'une l'autre. On refuse dédaigneusement, à cause de ce qu'on aime, et qui vous sera un jour si égal, de voir ce qui vous est égal aujourd'hui, qu'on aimera demain, qu'on aurait peut-être pu, si on avait consenti à le voir, aimer plus tôt, et qui eût ainsi abrégé vos souffrances actuelles, pour les remplacer, il est vrai, par d'autres. Les miennes allaient se modifiant. J'avais l'étonnement d'apercevoir au fond de moi-même, un jour un sentiment, le jour suivant un autre, généralement inspiré par telle espérance ou telle crainte relative à Gilberte, à la Gilberte que je portais en moi. J'aurais dû me dire que l'autre, la réelle, était peut-être entièrement différente de celle-là, ignorait tous les regrets que je lui prêtais, pensait probablement beaucoup moins à moi, non seulement que moi à elle, mais que je ne la faisais elle-même penser à moi, quand j'étais seul en tête-à-tête avec ma Gilberte fictive. Chercher quelles pouvaient être ses vraies intentions à mon égard, et l'imaginer ainsi son attention toujours tournée vers moi. Pendant ces périodes où tout en s'affaiblissant persiste le chagrin, il faut distinguer entre celui que nous cause la pensée constante de la personne elle-même et celui que raniment certains souvenirs, telle phrase méchante dite, tel verbe employé dans une lettre qu'on a reçue. En réservant de décrire à l'occasion d'un amour ultérieur les formes diverses du chagrin, disons que de ces deux-là, la première est infiniment moins cruelle que la seconde. Cela tient à ce que notre notion de la personne, vivant toujours en nous, y est embellie de l'auréole que nous ne tardons pas à lui rendre et s'empreint sinon des douceurs fréquentes de l'espoir, tout au moins du calme d'une tristesse permanente. D'ailleurs, il est à remarquer que l'image d'une personne qui nous fait souffrir tient peu de place dans ces complications qui aggravent un chagrin d'amour, le prolongent et l'empêchent de guérir. Comme dans certaines maladies, la cause est hors de proportion, avec la fièvre consécutive et la lenteur à entrer en convalescence. Mais si l'idée de la personne que nous aimons reçoit le reflet d'une intelligence généralement optimiste, il n'en est pas de même de ses souvenirs particuliers, de ses propos méchants, de cette lettre hostile. Je n'en reçus qu'une seule qui le fut de Gilberte. On dirait que la personne elle-même réside dans ces fragments pourtant si restreints et portée à une puissance qu'elle est bien loin d'avoir dans l'idée habituelle que nous nous formons d'elle tout entière. C'est que la lettre, nous ne l'avons pas, comme l'image de l'être aimé contemplé dans le calme mélancolique du regret. Nous l'avons lu, dévoré, dans l'angoisse affreuse dont nous étreignait un malheur inattendu. La formation de cette sorte de chagrin est autre. Ils nous viennent du dehors, et c'est par le chemin de la plus cruelle souffrance qu'ils sont allés jusqu'à notre cœur. L'image de notre ami, que nous croyons ancienne, authentique, a été en réalité refaite par nous bien des fois. Le souvenir cruel, lui, n'est pas contemporain de cette image restaurée. Il est d'un autre âge. Il est un des rares témoins d'un monstrueux passé. Mais comme ce passé continue à exister, sauf en nous, à qui il a plu de lui substituer un merveilleux âge d'or, un paradis où tout le monde sera réconcilié, ses souvenirs, ses lettres sont un rappel à la réalité et devraient nous faire sentir, par le brusque mal qu'ils nous font, combien nous nous sommes éloignés d'elle dans les folles espérances de notre attente quotidienne. Ce n'est pas que cette réalité doive toujours rester la même, bien que cela arrive parfois. Il y a dans notre vie bien des femmes que nous n'avons jamais cherché à revoir et qui ont tout naturellement répondu à notre silence nullement voulu par un silence pareil. Seulement celles-là, comme nous ne les aimions pas, nous n'avons pas compté les années passées loin d'elles, et cet exemple qui l'infirmerait est négligé par nous quand nous raisonnons sur l'efficacité de l'isolement, comme le sont par ceux qui croient au pressentiment, tous les cas où les leurs ne furent pas vérifiés. Mais enfin, l'éloignement peut être efficace. Le désir, l'appétit de nous revoir finissent par renaître dans le cœur qui actuellement nous méconnaît. Seulement, il y faut du temps. Or, nos exigences en ce qui concerne le temps ne sont pas moins exorbitantes que celles réclamées par le cœur pour changer. D'abord, du temps, c'est précisément ce que nous accordons le moins aisément, car notre souffrance est cruelle et nous sommes pressés de la voir finir. Ensuite, ce temps, dont l'autre cœur aura besoin pour changer, le nôtre s'en servira pour changer lui aussi, de sorte que quand le but que nous nous proposions deviendra accessible, il aura cessé d'être un but pour nous. D'ailleurs, l'idée même qu'il sera accessible, qu'il n'est pas de bonheur que lorsqu'il ne sera plus un bonheur pour nous, nous ne finissions par atteindre, cette idée comporte une part, mais une part seulement de vérité. Il nous échoit quand nous y sommes devenus indifférents. Mais précisément cette indifférence nous a rendus moins exigeants et nous permet de croire, rétrospectivement, qu'il nous eût ravis à une époque où il nous eût peut-être semblé fort incomplet. On n'est pas très difficile ni très bon juge sur ce dont on ne se soucie point. L'amabilité d'un être que nous n'aimons plus et qui semble encore excessive à notre indifférence eût peut-être été bien loin de suffire à notre amour. Ces tendres paroles, cette offre d'un rendez-vous, nous pensons au plaisir qu'elles nous auraient causé, non à toutes celles dont nous les aurions voulu voir immédiatement suivies, et que par cette avidité nous aurions peut-être empêché de se produire. De sorte qu'il n'est pas certain que le bonheur survenu trop tard, quand on ne peut plus en jouir, quand on n'aime plus, soit tout à fait ce même bonheur dont le manque nous rendit jadis si malheureux. Une seule personne pourrait en décider, notre moi d'alors, il n'est plus là, et sans doute suffirait-il qu'il revînt pour que, identique ou non, le bonheur s'évanouit. En attendant ces réalisations après coup d'un rêve auquel je ne tiendrai plus, à force d'inventer, comme au temps où je connaissais à peine Gilberte, des paroles, des lettres où elle implorait mon pardon, avouer n'avoir jamais aimé que moi et demander à m'épouser, une série de douces images, incessamment recréées, finir par prendre plus de place dans mon esprit que la vision de Gilberte et du jeune homme, laquelle n'était plus alimentée par rien. Je serais peut-être dès lors retourné chez Madame Swann sans un rêve que je fis, et où un de mes amis, lequel n'était pourtant pas de ceux que je connaissais, agissait envers moi avec la plus grande fausseté et croyait à la mienne. Brusquement réveillé par la souffrance que venait de me causer ce rêve, et voyant qu'elle persistait, je repensai à lui, cherchai à me rappeler quel était l'ami que j'avais vu en dormant, et dont le nom espagnol n'était déjà plus distinct. À la fois Joseph et Pharaon, je me mis à interpréter mon rêve. Je savais que dans beaucoup d'entre eux, il ne faut tenir compte ni de l'apparence des personnes, lesquelles peuvent être déguisées et avoir interchangé leur visage comme ces saints mutilés des cathédrales que des archéologues ignorants ont refait en mettant sur le corps de l'un la tête de l'autre et en mêlant les attributs et les noms. Ce que les êtres portent dans un rêve peuvent nous abuser, la personne que nous aimons doit y être reconnue seulement à la force de la douleur éprouvée. La mienne m'apprit que, devenu pendant mon sommeil un jeune homme, la personne dont la fausseté récente me faisait encore mal était Gilberte. Je me rappelai alors que la dernière fois que je l'avais vue, le jour où sa mère l'avait empêchée d'aller à une matinée de danse, elle avait soit sincèrement, soit en le feignant, refusé, tout en riant d'une façon étrange, de croire à mes bonnes intentions pour elle. Par association, ce souvenir en ramena un autre dans ma mémoire. Longtemps auparavant, ça avait été Swann qui n'avait pas voulu croire à ma sincérité, ni que je fusse un bon ami pour Gilberte. Inutilement, je lui avais écrit, Gilberte m'avait rapporté ma lettre et me l'avait rendue avec le même rire incompréhensible. Elle ne me l'avait pas rendue tout de suite, je me rappelais toute la scène derrière le massif de Laurier. On devient moral dès qu'on est malheureux. L'antipathie actuelle de Gilberte pour moi me sembla comme un châtiment infligé par la vie à cause de la conduite que j'avais eue ce jour-là. Les châtiments, on croit les éviter, parce qu'on fait attention aux voitures en traversant, qu'on évite les dangers. Mais il en est d'interne. L'accident vient du côté auquel on ne songeait pas, du dedans, du cœur. Les mots de Gilberte, « Si vous voulez, continuons à lutter », me firent horreur. Je l'imaginais telle chez elle peut-être dans la lingerie, avec le jeune homme que j'avais vu l'accompagnant dans l'avenue des Champs-Élysées. Ainsi, autant que il y avait quelque temps de croire que j'étais tranquillement installé dans le bonheur, j'avais été insensé, maintenant que j'avais renoncé à être heureux, de tenir pour assuré que du moins j'étais devenu, je pourrais rester calme. Car tant que notre cœur enferme d'une façon permanente l'image d'un autre être, ce n'est pas seulement notre bonheur qui peut à tout moment être détruit. Quand ce bonheur est évanoui, quand nous avons souffert, puis que nous avons réussi à endormir notre souffrance, ce qui est aussi trompeur et précaire qu'avait été le bonheur même, c'est le calme. Le mien finit par revenir, car ce qui, modifiant notre état moral, nos désirs, est entré à la faveur d'un rêve dans notre esprit, cela aussi peu à peu se dissipe. La permanence et la durée ne sont promises à rien, pas même à la douleur. D'ailleurs, ceux qui souffrent par l'amour sont, comme on dit de certains malades, leurs propres médecins. Comme il ne peut leur venir de consolation que de l'être qui cause leur douleur, et que cette douleur est une émanation de lui, c'est en elle qu'ils finissent par trouver un remède. Elle le leur découvre elle-même à un moment donné, car au fur et à mesure qu'ils la retournent en eux, cette douleur leur montre un autre aspect de la personne regrettée, tantôt si haïssable qu'on n'a même plus le désir de la revoir, parce qu'avant de se plaire avec elle, il faudrait la faire souffrir, tantôt si douce que la douceur qu'on lui prête, on lui en fait un mérite, et on en tire une raison d'espérer. Mais la souffrance qui s'était renouvelée en moi eut beau finir par s'apaiser, je ne voulus plus retourner que rarement chez Madame Swann. C'est d'abord que chez ceux qui aiment et sont abandonnés, le sentiment d'attente, même d'attente inavouée, dans lequel ils vivent, se transforme de lui-même, et bien qu'en apparence identique, fait succéder à un premier état, un second exactement contraire. Le premier était la suite, le reflet des incidents douloureux qui nous avaient bouleversés. L'attente de ce qui pourrait se produire est mêlée d'effroi, d'autant plus que nous désirons à ce moment-là, si rien de nouveau ne nous vient du côté de celle que nous aimons, agir nous-mêmes, et nous ne savons trop quel sera le succès d'une démarche après laquelle il ne sera peut-être plus possible d'en entamer d'autres. Mais bientôt, sans que nous nous en rendions compte, notre attente qui continue est déterminée, nous l'avons vu, non plus par le souvenir du passé que nous avons subi, mais par l'espérance d'un avenir imaginaire. Dès lors, elle est presque agréable, puis la première, en durant un peu, nous a habitués à vivre dans l'expectative. La souffrance que nous avons éprouvée durant nos derniers rendez-vous survit encore en nous, mais déjà ensommeillée. Nous ne sommes pas trop pressés de la renouveler, d'autant plus que nous ne voyons pas bien ce que nous demanderions maintenant. La possession d'un peu plus de la femme que nous aimons ne ferait que nous rendre plus nécessaire ce que nous ne possédons pas, et qui resterait malgré tout, nos besoins naissants de nos satisfactions, quelque chose d'irréductible. Enfin, une dernière raison s'ajouta plus tard à celle-ci pour me faire cesser complètement mes visites à Madame Swann. Cette raison plus tardive n'était pas que j'eusse encore oublié Gilbert, mais de tâcher de l'oublier plus vite. Sans doute depuis que ma grande souffrance était finie, mes visites chez Madame Swann étaient redevenues, pour ce qui me restait de tristesse, le calmant et la distraction qui m'avaient été si précieux au début. Mais la raison de l'efficacité du premier faisait l'inconvénient de la seconde, à savoir qu'à ces visites, le souvenir de Gilberte était intimement mêlé. La distraction ne m'eût été utile que si elle eût mis en lutte, avec un sentiment que la présence de Gilberte n'alimentait plus, des pensées, des intérêts, des passions, où Gilberte ne fût entrée pour rien. Ces états de conscience auxquels l'être qu'on aime reste étranger occupent alors une place qui, si petite qu'elle soit d'abord, est autant de retranchée à l'amour qui occupait l'âme tout entière. Il faut chercher à nourrir, à faire croître ses pensées, cependant que décline le sentiment qui n'est plus qu'un souvenir, de façon que les éléments nouveaux introduits dans l'esprit lui disputent, lui arrachent une part de plus en plus grande de l'âme, et finalement la lui dérobe toute. Je me rendais compte que c'était la seule manière de tuer un amour, et j'étais encore assez jeune, assez courageux pour entreprendre de le faire. Pour assumer la plus cruelle des douleurs qui naît de la certitude que quelque temps qu'on doive y mettre, on réussira. La raison que je donnais maintenant dans mes lettres à Gilberte de mon refus de la voir, c'était une allusion à quelque mystérieux malentendu parfaitement fictif qu'il y aurait eu entre elle et moi, et sur lequel j'avais espéré d'abord que Gilberte me demanderait des explications. Mais en fait, jamais, même dans les relations les plus insignifiantes de la vie, un éclaircissement n'est sollicité par un correspondant qui sait qu'une phrase obscure, mensongère, incriminatrice, est mise à dessein pour qu'il proteste, et qui est trop heureux de sentir par là qu'il possède et de garder la maîtrise de l'initiative des opérations. À plus forte raison en est-il de même dans des relations plus tendres où l'amour a tant d'éloquence, l'indifférence si peu de curiosité. Gilberte n'ayant pas mis en doute ni cherché à connaître ce malentendu, il devint pour moi quelque chose de réel auquel je me référais dans chaque lettre, et il y a dans ces situations prises à faux, dans l'affectation de la froideur, un sortilège qui vous y fait persévérer. À force d'écrire « Depuis que nos cœurs sont désunis » pour que Gilberte me répondît « Mais ils ne le sont pas, expliquons-nous ». J'avais fini par me persuader qu'il l'était. En répétant toujours « La vie a pu changer pour nous, elle n'effacera pas le sentiment que nous eûmes ». Par désir de m'entendre dire enfin « Mais il n'y a rien de changé, ce sentiment est plus fort que jamais ». Je vivais avec l'idée que la vie avait changé en effet, que nous garderions le souvenir du sentiment qui n'était plus, comme certains nerveux, pour avoir simulé une maladie, finissent par rester toujours malades. Maintenant, chaque fois que j'avais à écrire à Gilberte, je me reportais à ce changement imaginé et dont l'existence, désormais tacitement reconnue par le silence qu'elle gardait à ce sujet dans ses réponses, subsisterait entre nous. Puis Gilberte cessa de s'en tenir à la prétérition. Elle-même adopta mon point de vue, et comme dans les toasts officiels où le chef d'État qui y reçut reprend peu à peu les mêmes expressions dont vient d'user le chef d'État qui le reçoit, chaque fois que j'écrivais à Gilberte « La vie a pu nous séparer, le souvenir du temps où nous nous connûmes durera. » Elle ne manqua pas de répondre « La vie a pu nous séparer, elle ne pourra nous faire oublier les bonnes heures qui nous seront toujours chères. » Nous aurions été bien embarrassés de dire pourquoi la vie nous avait séparés, quel changement s'était produit. Je ne souffrais plus trop. Pourtant, un jour où je lui disais dans une lettre que j'avais appris la mort de notre vieille marchande de sucre d'orge des Champs-Élysées, comme je venais d'écrire ces mots, j'ai pensé que cela vous a fait de la peine, en moi cela a remué bien des souvenirs. Je ne pus m'empêcher de fondre en larmes en voyant que je parlais au passé, et comme s'il s'agissait d'un mort déjà presque oublié, de cet amour auquel, malgré moi, je n'avais jamais cessé de penser comme étant vivant, pouvant du moins renaître. Rien de plus tendre que cette correspondance entre amis qui ne voulaient plus se voir. Les lettres de Gilberte avaient la délicatesse de celles que j'écrivais aux indifférents et me donnaient les mêmes marques apparentes d'affection, si douces pour moi à recevoir d'elle. D'ailleurs, peu à peu, chaque refus de la voir me fit moins de peine, et comme elle me devenait moins chère, mes souvenirs douloureux n'avaient plus assez de force pour détruire dans le retour incessant la formation du plaisir que j'avais à penser à Florence, à Venise. Je regrettais à ces moments-là d'avoir renoncé à entrer dans la diplomatie et de m'être fait une existence sédentaire pour ne pas m'éloigner d'une jeune fille que je ne verrais plus et que j'avais déjà presque oubliée. On construit sa vie pour une personne et quand enfin on peut l'y recevoir, cette personne ne vient pas, puis meurt pour vous, et on vit prisonnier dans ce qui n'était destiné qu'à elle. Si Venise semblait à mes parents bien lointain et bien fiévreux pour moi, il était du moins facile d'aller sans fatigue s'installer à Balbec. Mais pour cela, il eût fallu quitter Paris, renoncer à ses visites, grâce auxquelles, si rares qu'elles fussent, j'entendais quelquefois Madame Swann me parler de sa fille. Je commençais du reste à y trouver tel ou tel plaisir, où Gilberte n'était pour rien. Quand le printemps approcha, ramenant le froid au temps des saints de glace et des giboulées de la semaine sainte, comme Madame Swann trouvait congelé chez elle, il m'arrivait souvent de la voir recevant dans des fourrures, ses mains et ses épaules frileuses disparaissant sous le blanc et brillant tapis d'un immense manchon plat et d'un collet, tous deux d'hermine, qu'elle n'avait pas quitté en rentrant et qui avait l'air des derniers carrés des neiges de l'hiver plus persistants que les autres, et que la chaleur du feu, ni le progrès de la saison, n'avaient réussi à fondre. Et la vérité totale de ces semaines glaciales, mais déjà florissantes, était suggérée pour moi dans ce salon, où bientôt je n'irai plus, par d'autres blancheurs plus enivrantes, celle par exemple des boules de neige assemblant au sommet de leur haute tige nue, comme les arbustes linéaires des pré-raphaélites, leurs globes parcellés mais unis, blancs comme des anges annonciateurs, et qu'entourait une odeur de citron. Car la châtelaine de Tansonville savait qu'avril, même glacé, n'est pas dépourvu de fleurs, que l'hiver, le printemps, l'été ne sont pas séparés par des cloisons aussi hermétiques que tente à le croire le boulevardier, qui jusqu'aux premières chaleurs s'imagine le monde comme renfermant seulement des maisons nues sous la pluie. Que Madame Swann se contenta des envois que lui faisait son jardinier de Combray, et que par l'intermédiaire de sa fleuriste attitrée, elle ne combla pas les lacunes d'une insuffisante évocation à l'aide d'emprunts faits à la précocité méditerranéenne, je suis loin de le prétendre, et je ne m'en souciais pas. Il me suffisait pour avoir la nostalgie de la campagne qu'à côté des névés du Manchon que tenait Madame Swann, les boules de neige, qui n'avaient peut-être dans la pensée de la maîtresse de la maison d'autre but que de faire, sur les conseils de Bergotte, symphonie en blanc majeur, avec son ameublement et sa toilette, me rappelassent que l'enchantement du Vendredi Saint figure un miracle naturel auquel on pourrait assister tous les ans si l'on était plus sage, et aidé du parfum acide et capiteux de corolles d'autres espèces dont j'ignorais les noms et qui m'avaient fait rester tant de fois en arrêt dans mes promenades de Combray, rendissent le salon de Madame Swann aussi virginal, aussi candidement fleuri sans aucune feuille, aussi surchargé d'odeurs authentiques que le petit raidillon de Tansonville. Mais c'était encore trop que celui-ci me fût rappelé. Son souvenir risquait d'entretenir le peu qui subsistait de mon amour pour Gilberte. Aussi bien que je ne souffrisse plus du tout durant ses visites à Madame Swann, je les espaçais encore et cherchais à la voir le moins possible. Tout au plus, comme je continuais à ne pas quitter Paris, me concédais-je certaines promenades avec elle. Les beaux jours étaient enfin revenus, et la chaleur. Comme je savais qu'avant le déjeuner, Madame Swann sortait pendant une heure et allait faire quelques pas avenue du Bois, près de l'Étoile, et de l'endroit qu'on appelait alors, à cause des gens qui venaient regarder les riches qu'ils ne connaissaient que de nom, Club des Panés, j'obtins de mes parents que le dimanche, car je n'étais pas libre en semaine à cette heure-là, je pourrais ne déjeuner que bien après eux, à 1h15, et aller faire un tour auparavant. Je n'y manquais jamais pendant ce mois de mai, Gilberte étant allée à la campagne chez des amis. J'arrivais à l'Arc de Triomphe vers midi, je faisais le guet à l'entrée de l'avenue, ne perdant pas des yeux le coin de la petite rue, par où Madame Swann, qui n'avait que quelques mètres à franchir, venait de chez elle. Comme c'était déjà l'heure où beaucoup de promeneurs rentraient déjeuner, ceux qui restaient étaient peu nombreux, et pour la plus grande part, des gens élégants. Tout d'un coup, sur le sable de l'allée, tardive, alentie et luxuriante comme la plus belle fleur, et qui ne s'ouvrirait qu'à midi, Madame Swann apparaissait, épanouissant autour d'elle une toilette toujours différente, mais que je me rappelle surtout mauve. Puis elle hissait et déployait sur un long pédoncule, au moment de sa plus complète irradiation, le pavillon de soie d'une large ombrelle de la même nuance que l'effeuillaison des pétales de sa robe. Toute une suite l'environnait, Swann, 4 ou 5 hommes de club qui étaient venus la voir le matin chez elle ou qu'elle avait rencontré, et leur noire ou grise agglomération obéissante, exécutant les mouvements presque mécaniques d'un cadre inerte autour d'Odette, donnait l'air à cette femme qui seule avait de l'intensité dans les yeux, de regarder devant elle, d'entre tous ces hommes, comme d'une fenêtre dont elle se fût approchée, et la faisait surgir, frêle, sans crainte, dans la nudité de ses tendres couleurs, comme l'apparition d'un être d'une espèce différente, d'une race inconnue et d'une puissance presque guerrière, grâce à quoi elle compensait à elle seule sa multiple escorte. Souriante, heureuse du beau temps, du soleil qui n'incommodait pas encore, ayant l'air d'assurance et de calme du Créateur qui a accompli son œuvre et ne se soucie plus du reste, certaine que sa toilette, dût-ce des passants vulgaires ne pas l'apprécier, était la plus élégante de toutes, elle la portait pour soi-même et pour ses amis, naturellement, sans attention exagérée, mais aussi sans détachement complet, n'empêchant pas les petits nœuds de son corsage et de sa jupe de flotter légèrement devant elle comme des créatures dont elle n'ignorait pas la présence et à qui elle permettait, avec indulgence, de se livrer à leur jeu selon leur rythme propre, pourvu qu'ils suivissent sa marche, et même sur son ombrelle mauve, que souvent elle tenait encore fermée quand elle arrivait, elle laissait tomber par moments, comme sur un bouquet de violettes de Parme, son regard heureux et si doux que quand il ne s'attachait plus à ses amis mais à un objet inanimé, il avait l'air de sourire encore. Elle réservait ainsi, elle faisait occuper à sa toilette cet intervalle d'élégance dont les hommes à qui Madame Swann parlait le plus en camarade respectaient l'espace et la nécessité, non sans une certaine déférence de profane, un aveu de leur propre ignorance, et sur lequel ils reconnaissaient à leur ami comme à un malade sur les soins spéciaux qu'il doit prendre, ou comme à une mère sur l'éducation de ses enfants, compétence et juridiction. Non moins que par la cour qui l'entourait et ne semblait pas voir les passants, Madame Swann, à cause de l'heure tardive de son apparition, évoquait cet appartement où elle avait passé une matinée si longue et où il faudrait qu'elle rentrât bientôt déjeuner. Elle semblait en indiquer la proximité par la tranquillité flâneuse de sa promenade, pareille à celle qu'on fait à petits pas dans son jardin, de cet appartement. On aurait dit qu'elle portait encore autour d'elle l'ombre intérieure et fraîche. Mais par tout cela même, sa vue ne me donnait que davantage la sensation du plein air et de la chaleur. D'autant plus que déjà persuadé qu'en vertu de la liturgie et des rites dans lesquels Madame Swann était profondément versée, sa toilette était unie à la saison et à l'heure par un lien nécessaire, unique, les fleurs de son inflexible chapeau de paille, les petits rubans de sa robe me semblaient naître du mois de mai, plus naturellement encore que les fleurs des jardins et des bois. Et pour connaître le trouble nouveau de la saison, je ne levais pas les yeux plus haut que son ombrelle, ouverte et tendue comme un autre ciel plus proche, rond, clément, mobile et bleu. Car ces rites, s'ils étaient souverains, mettaient leur gloire et par conséquent Madame Swann mettait la sienne à obéir avec condescendance au matin, au printemps, au soleil, lesquels ne me semblaient pas assez flattés qu'une femme si élégante voulût bien ne pas les ignorer, et eût choisi à cause d'eux une robe d'une étoffe plus claire, plus légère, faisant penser par son évasement au col et aux manches à la moiture du cou et des poignets, fit enfin pour eux tous les frais d'une grande dame, qui s'étant gaiement abaissée à aller voir à la campagne des gens communs, et que tout le monde, même le vulgaire, connaît, n'en a pas moins tenu à revêtir spécialement pour ce jour-là une toilette champêtre. Dès son arrivée, je saluai Madame Swann. Elle m'arrêtait et me disait « Good morning » en souriant. Nous faisions quelques pas, et je comprenais que ces canons selon lesquels elle s'habillait, c'était pour elle-même qu'elle y obéissait, comme à une sagesse supérieure dont elle eût été la grande prêtresse. Car s'il lui arrivait qu'ayant trop chaud, elle entr'ouvrit ou même ôta tout à fait et me donna à porter sa jaquette qu'elle avait cru garder fermée, je découvrais dans la chemisette, 1000 détails d'exécution qui avaient eu grande chance de rester inaperçus, comme ces parties d'orchestre auxquelles le compositeur a donné tous ses soins, bien qu'elles ne doivent jamais arriver aux oreilles du public, ou dans les manches de la jaquette pliée sur mon bras, je regardais longuement, par plaisir ou par amabilité, quelques détails exquis. Une bande d'une teinte délicieuse, une satinette mauve habituellement cachée aux yeux de tous, mais aussi délicatement travaillée que les parties extérieures, comme ces sculptures gothiques d'une cathédrale dissimulées au revers d'une balustrade à 80 pieds de hauteur, aussi parfaites que les bas-reliefs du grand porche, mais que personne n'avait jamais vu avant qu'au hasard d'un voyage, un artiste n'eût obtenu de monter se promener en plein ciel pour dominer toute la ville entre les deux tours. Ce qui augmentait cette impression que Madame Swann se promenait dans l'avenue du bois comme dans l'allée d'un jardin à elle, c'était pour ces gens qui ignoraient ses habitudes de footing, qu'elle fût venue à pied, sans voiture qui suivit, elle que dès le début de mai, on avait l'habitude de voir passer avec l'attelage le plus soigné, la livrée la mieux tenue de Paris, mollement et majestueusement assise comme une déesse dans le tiède plein air d'une immense Victoria à 8 ressorts. À pied, Madame Swann avait l'air, surtout avec sa démarche que ralentissait la chaleur, d'avoir cédé à une curiosité de commettre une élégante infraction aux règles du protocole, comme ces souverains qui, sans consulter personne, accompagnés par l'admiration un peu scandalisée d'une suite qui n'ose formuler une critique, sortent de l'horloge pendant un gala et visitent le foyer en se mêlant pendant quelques instants aux autres spectateurs. Ainsi, entre Madame Swann et la foule, celle-ci sentait ces barrières d'une certaine sorte de richesse, lesquelles lui semblent les plus infranchissables de toutes. Le faubourg Saint-Germain a bien aussi les siennes, mais moins parlantes aux yeux et à l'imagination des panés. Ceci auprès d'une grande dame plus simple, plus facile à confondre avec une petite bourgeoise, moins éloignée du peuple, n'éprouveront pas ce sentiment de leur inégalité, presque de leur indignité, qu'ils ont devant une Madame Swann. Sans doute ces sortes de femmes ne sont pas elles-mêmes frappées comme eux du brillant appareil dont elles sont entourées, elles n'y font plus attention. Mais c'est à force d'y être habitué, c'est-à-dire d'avoir fini par le trouver d'autant plus naturel, d'autant plus nécessaire, par juger les autres êtres, selon qu'ils sont plus ou moins initiés à ces habitudes de luxe, de sorte que la grandeur qu'elle laisse éclater en elle, qu'elle découvre chez les autres, étant toute matérielle, facile à constater, longue à acquérir, difficile à compenser, si ces femmes mettent un passant au rang le plus bas, c'est de la même manière qu'elles lui sont apparues au plus haut, à savoir immédiatement, à première vue, sans appel. Peut-être cette classe sociale particulière qui comptait alors des femmes comme Lady Israels, mêlée à celle de l'aristocratie, et Madame Swann, qui devait les fréquenter un jour, cette classe intermédiaire, inférieure au faubourg Saint-Germain, puisqu'elle le courtisait, mais supérieure à ce qui n'est pas du faubourg Saint-Germain, et qui avait ceci de particulier que, déjà dégagée du monde des riches, elle était la richesse encore, mais la richesse devenue ductile, obéissant à une destination, à une pensée artistique, l'argent malléable, poétiquement ciselé et qui sait sourire. Peut-être cette classe, du moins avec le même caractère et le même charme, n'existe-t-elle plus? D'ailleurs, les femmes qui en faisaient partie n'auraient plus aujourd'hui ce qui était la première condition de leur règne, puisqu'avec l'âge, elles ont, presque toutes, perdu leur beauté. Or, autant que du fait de sa noble richesse, c'était du comble glorieux de son été mûr et si savoureux encore, que Madame Swann, majestueuse, souriante et bonne, s'avançant dans l'avenue du bois, voyait comme Hypatie, sous la lente marche de ses pieds, rouler les mondes. Des jeunes gens qui passaient la regardaient anxieusement, incertains si leur vague relation avec elle, d'autant plus qu'ayant à peine été présenté une fois à Swann, il craignait qu'il ne les reconnût pas, était suffisante pour qu'ils se permissent de la saluer. Et ce n'était qu'en tremblant devant les conséquences qu'il s'y décidait, se demandant si leurs gestes, audacieusement provocateurs et sacrilèges, attentant à l'inviolable suprématie d'une caste, n'allaient pas déchaîner des catastrophes ou faire descendre le châtiment d'un dieu. Il déclenchait seulement, comme un mouvement d'horlogerie, la gesticulation de petits personnages salueurs, qui n'étaient autres que l'entourage d'Odette, à commencer par Swann, lequel soulevait son tube doublé de cuir vert, avec une grâce souriante apprise dans le faubourg Saint-Germain, mais à laquelle ne s'alliait plus l'indifférence qu'il aurait eue autrefois. Elle était remplacée, comme s'il était dans une certaine mesure pénétré des préjugés d'Odette, à la fois par l'ennui d'avoir à répondre à quelqu'un d'assez mal habillé et par la satisfaction que sa femme connut tant de monde. Sentiment mixte qu'il traduisait en disant aux amis élégants qui l'accompagnaient « Encore un ? Ma parole, je me demande où Odette va chercher tous ces gens-là. » Cependant, ayant répondu par un signe de tête au passant alarmé, déjà hors de vue, mais dont le cœur battait encore, Madame Swann se tournait vers moi. « Alors, me disait-elle, c'est fini ? Vous ne viendrez plus jamais voir Gilberte ? Je suis contente d'être acceptée et que vous ne me dropiez pas tout à fait. J'aime vous voir, mais j'aimais aussi l'influence que vous aviez sur ma fille. Je crois qu'elle le regrette beaucoup aussi. Enfin, je ne veux pas vous tyranniser parce que vous n'auriez qu'à ne plus vouloir me voir non plus. Odette, Sagan, qui vous dit bonjour, faisait remarquer Swann à sa femme. Et en effet, le prince, faisant comme dans une apothéose de théâtre, de cirque, ou dans un tableau ancien, faire front à son cheval, adresser à Odette un grand salut théâtral et comme allégorique, où s'amplifiait toute la chevaleresque courtoisie du grand seigneur, inclinant son respect devant la femme. Fut-elle incarnée en une femme que sa mère ou sa sœur ne pourraient pas fréquenter. D'ailleurs, à tout moment reconnue au fond de la transparence liquide et du vernis lumineux de l'ombre que versait sur elle son ombrelle, Madame Swann était saluée par les derniers cavaliers attardés, comme cinématographiés au galop sur l'ensoleillement blanc de l'avenue, hommes de cercle dont les noms célèbres pour le public, Antoine de Castellane, Adalbert de Montmorency et tant d'autres, étaient pour Madame Swann des noms familiers d'amis. Et comme la durée moyenne de la vie, la longévité relative, est beaucoup plus grande pour les souvenirs des sensations poétiques que pour ceux des souffrances du cœur, depuis si longtemps que se sont évanouis les chagrins que j'avais alors à cause de Gilberte, il leur a survécu le plaisir que j'éprouve, chaque fois que je veux lire, en une sorte de cadran solaire, les minutes qu'il y a entre midi un quart et une heure au mois de mai, à me revoir causant ainsi avec Madame Swann, sous son ombrelle, comme sous le reflet d'un berceau de glycines.